definition. My definition. My definition is this. My definition. My definition. My definition. My definition is this.
I have a dream.
Bonjour escapadiens, escapadiennes dans le royaume de l'intermédiaire, je suis heureuse de vous retrouver sur le 102.0, le 103.3 et le 104.1 ainsi que sur le www.radioescapades.org. Alors, nous poursuivons notre petite série de poésie et nous allons revenir évidemment au fief, c'est-à-dire en France, en Gaule. C'est-à-dire la poésie médiévale jusqu'au XVIIIe siècle. Alors la poésie, chez nous, c'est toute une histoire. Et oui, parce que nous, nous sommes des amoureux. Nous, nous sommes un pays d'amour. Et c'est ce qui a inspiré l'arrivée de la poésie. La poésie de cour, la poésie médiévale. C'est entre le XIe et le XVe siècle que vont se poser les fondements de notre conception moderne de la poésie. Initiée dans les cours de puissants seigneurs du sud de la France, la poésie lyrique, adjectif composé par la base de la lyre, qui renvoie à l'instrument de musique, est issue de la tradition de l'amour courtois, ou finamor. On chante dans ces cours princières l'amour porté à une femme, amour qui rend meilleur celui qui l'éprouve. D'abord chantés, les poèmes sont composés en langue d'oc, avant de s'étendre vers le nord de la France et d'être chantés en langue d'oïl. Les premiers poètes sont appelés troubadours. Au sud, vers la Nas Castoreza. Et dans le nord, on les appelle les trouvères. Dès le XIIIe siècle, les poètes doivent se mettre au service d'un prince qui devient leur mécène pour pouvoir vivre de leurs plumes. C'est le cas par exemple de François Villon qui fréquenta la cour de Charles d'Orléans à Blois. Le métier du poète de cour est officialisé au XIVe siècle. Christine de Pizan sera ainsi rattachée au prince de Jean, premier de Berry, ou Louis Ier d'Orléans. Ces princes apprécient particulièrement les jeux poétiques et la poésie courtoise. Ils vont jusqu'à inventer des concours poétiques au cours desquels plusieurs poètes s'affrontent sur un même thème. Ces poètes sont restés dans l'histoire sous le nom de grands rhétoriqueurs. Nous allons faire une petite pause pour ramener justement à ces poèmes chantés de troubadours avec Chevalier Mult Este Garis.
Quand eu a vos falsa clamor, destures e des moravits, qui vivum feist et presenos, que dator duns et fieus alcits, vienen de vums a ver dolor, que la fudeu prime servi, er reconum, se nu, dio de vida. Nun Christiens und es maies, les mustiers arse desertets, deus mies nais sacrifiets, si vales que es vos pur pensets, vos quid armes estes presets, a senuibus per peseles, qui pur vos futen vos treques.
Si volerida,
Qui vuoi non so che
reprisum, pais diffidentem signios, che mors suffrite passium, orvus mandece sceneus, elagem sanguine fedum, mut liudait de videndus, or lumen des veredum. Fiore at wise et creatur jordis, pleserus afli pecur, qui bien ferunt pur saur, irunt en selve soem servir, pur la venganse Deu fugir, per la fulmum primeserum, per reconurum, or se nu, fiore
en compagnie du chevalier Multeste Gratis du XIIe siècle. C'était profond, hein, comme chant lyrique. Poésie ensuite, poésie personnelle. C'est avec Guillaume de Machaut qui, au début du XIVe siècle, va s'attacher à différencier poésie et chant, en reprenant les thèmes de l'amour courtois, mais sans l'accompagnement instrumental. On va donc les dissocier. On commence alors à s'intéresser à la musicalité du vers en lui-même, à la beauté de la langue et à celle des sentiments exprimés. On passe ainsi progressivement, au cours du Moyen-Âge, d'une poésie chantée très formelle à une poésie plus personnelle, qui s'inspire de la réalité et du vécu des poètes, tels que François Villon dans l'épitaphe Villon ou la ballade des pendus, qui fait référence à sa condamnation à mort, tandis que Christine Pizan consacre tout un recueil à la tristesse liée à son veuvage. Ensuite, nous passons de Marot à la Pléiade, jusqu'au XVIe siècle. L'importance de Clément Marot, c'est un poète qui permet de faire la transition entre la poésie médiévale et la poésie moderne. Et Clément Marot, sur ce plan-là, à propos duquel Jean-François de la Harpe, dans son cours de littérature ancienne et moderne, 1798-1804, dit de lui « est la première époque vraiment remarquable dans l'histoire de notre poésie, bien plus par le talent qui lui était particulier que par les progrès qu'il fit faire à notre versification ». Marot introduit en France deux formes innovantes qui vont bouleverser le champ poétique, c'est-à-dire le sonnet, qui rapporte d'Italie, et le genre du blason et du contre-blason qu'il invente. Nous avons ensuite, par le sonnet, une forme fixe, sans doute inventée par l'école sicilienne au début du XIIIe siècle, qui a été utilisée par le poète italien Pétrarque, pardon, au XIVe siècle, touché par un coup de foudre immédiat qui l'attacha à l'or de Nove le 6 avril 1327, alors que la jeune fille sort d'une église en Avignon, Pétrarque lui consacrera 366 poèmes publiés dans son recueil Canzoniere. De 1470 à titre posthume, ce sera édité, dont de nombreux sonnets, 317. En 1534, après l'affaire des placards, Marot préfère s'éloigner de la cour et de François Ier et se rend en Italie. Il arrive à Venise en 1536. C'est là qu'il découvre le sonnet pétrarquiste. Le premier sonnet français marotique est publié en 1538. Cette forme sera immédiatement reprise par des poétesses comme Catherine Desroches, par les membres de l'École de Lyon et par ceux de la Pléiade. Alors, qu'est-ce que l'École de Lyon ? Eh bien, je vais vous en dire quelques mots. L'École de Lyon a pour coutume de rassembler sous cette appellation des auteurs vivant à Lyon au début du XVIe siècle, parmi lesquels Maurice Sève, Louis Labbé, Pernette Duguillet. Même s'ils ne sont pas restreints à l'écriture poétique, c'est grâce à ce genre que ces humanistes lettrés passent à la postérité. Ils subissent eux aussi l'influence de pétrarquisme et rédigent des poèmes souvent des sonnets à la fois précieux et passionnés qui dévoilent les sentiments des poètes tout en ne mentionnant pas le nom des personnes aimées, bien entendu. C'est l'un des premiers mouvements à laisser une place de choix aux femmes en tant qu'auteurs. Tandis que la Pléiade, quelques années plus tard, dans les années 1540, toujours sous l'influence de Marot, est autour de la figure helléniste de Jean Dora. Un groupe de 7 jeunes poètes fonde la Brigade qui deviendra la Pléiade. Ils prennent leur distance avec les poètes médiévaux qu'ils jugent comme les représentants d'une tradition dépassée. Initié en pleine Renaissance, ce mouvement subit l'influence de l'époque et cherche à revenir au modèle antique dont il s'inspire. Après ces quelques phrases et ces quelques poésies que je vous citerai, je vous invite à écouter encore, on reste encore dans le médiéval parce que j'adore la bourrée des cerfs. Je vous invite par moment à aller sur internet et vous mettez, il y a une très belle série des musiques médiévales sur une heure et vous avez différents morceaux, ils sont fabuleux et ils inspirent cette époque de plein de poésie comme la Anna Castellosa, première moitié du 13e. Cette femme troubadour du début du XIIIe siècle habitait un château près d'Aurillac. Elle était mariée à un croisé. Le sujet de ses poèmes est souvent l'amour courtois. Nous connaissons d'elle trois canso, poésie lyrique musicale occitane, de ferveur et d'humilité qu'elle dédia à Armand de Béron, un grand seigneur qui la charmait. Désormais, de chanter, je ne devrais plus avoir envie, car plus je chante, et pis il en va de mon amour. Puisque plaintes et pleurs font en moi leur séjour, car en un mauvais service, j'ai engagé mon cœur et moi-même. Et si à bref délai il ne me retient près de lui, j'ai fait trop longue attente. Ah, bel ami, du moins qu'un bel accueil me soit fait pour vous avant que je meure de douleur, car les amoureux vous tiennent pour farouche, voyant qu'aucune joie ne m'advient de vous, et pourtant je me lasse pas d'aimer avec bonne foi, et tout temps sans cœur volage. Mais jamais envers vous je n'aurai cœur vil, ni plein de fourberie, bien qu'en échange je vous trouve pire à mon égard, car je tiens à grand honneur pour moi cette conduite au fond de mon cœur. Au contraire, je suis pensive quand il me souvient du riche mérite qui vous protège, et je sais bien qu'il vous convient une dame de plus haut partage. Depuis, je vous ai vu, j'ai été à vos ordres, et jamais néanmoins, ami, je ne vous ai trouvé meilleur que moi. Car ni suppliant ne m'a envoyé par vous ni messager, disant que vous tourniez le frein vers moi. Ami, que pour moi vous fassiez rien, puisque la joie ne me soutient pas, peu s'en faut que de douleur je n'enrage. Duc de la Salle de Rochemort, majoral fébriliche, troubadour cantalien. Bonjour au Cantalouf. Je vais poursuivre, puisque nous avons parlé du pétrarchisme, un poète du Moyen-Âge considéré comme l'un des premiers humanistes et l'inventeur du grand sonnet. Il écrivit plus de 300, tous destinés à cette jeune Lorde Nove, qui croisa un jour d'avril 1327, à la sortie de cette messe, leur regard. Il ne vécut jamais rien de charnel entre eux. Ces sonnets furent réunis de manière posthume. Et ce sont les canzoniere que je vous ai cités auparavant. Beaucoup de mérite d'inspiration, Madame Lorde Nove. Voici un sonnet, le sonnet 26. Il aime et aimera toujours le lieu, la saison et le moment où il devint amoureux de l'or. J'aimais toujours et j'aime encore fortement, et de jour en jour j'aimerai davantage ce doux lieu où je retourne en pleurant toutes les fois qu'amour m'attriste. Et je suis bien décidée à aimer le temps et l'heure qui m'enlève toute pensée vile, et plus encore celle dont le beau visage m'encourage par son exemple à bien faire. Mais qui se serait attendu à voir réunis tous ensemble pour assaillir mon cœur de ça, de là, ces doux ennemis que j'aime tant? Amour, avec quelle force tu me terrasses aujourd'hui? Et n'était-ce qu'avec le désir s'accroît l'espérance, je tomberais mort alors que je désire le plus vivre. Les rimes de François Pétrarque. C'est-il pas beau? N'est-ce pas? Nous allons poursuivre. Et là, nous sommes toujours au XVIe siècle, 1524-1566, Louise l'Abbé. Louise l'Abbé, dont certains spécialistes remettent en cause l'existence réelle, appartient à l'église lyonnaise dont je vous ai parlé, de la poésie. Elle laisse de nombreux sonnets qui évoquent l'amour et ses tourments. Diane, étant en l'épaisseur du bois. Après avoir maintes bêtes assénées, prenez le frais, de nymphes couronnées, j'allais rêvant comme fait maintes fois, sans y penser quand jouis d'une voix qui m'appela disant « Nymphe étonnée, que n'es-tu vers Diane tournée ?» Et me voyant sans arc et sans carquois, « Qu'as-tu trouvé, ô campagne, en ta voix ?» que de ton arc et flèche ai fait proie, je m'animais, réponds-je à un passant, et lui jetais en vain toutes mes flèches et l'arc après. Mais lui, les ramassant et les tirant, me fit sente et sans brèche. C'est-il pas beau? Nous avons aussi André Chénier. Oh, André Chénier, j'adore. Et là, c'est un peu plus tard. Nous sommes au XVIIIe siècle. Et oui, au XVIIIe siècle, vous avez la poésie qui change. Les académies et jusqu'au classicisme. Face au baroque, les penseurs classiques viennent rétablir l'ordre, ainsi bien que les esprits que les règles artistiques. Louis XIII arrive au pouvoir et c'est ainsi qu'un conseiller du cardinal de Richelieu qui devint son proche ministre, c'est lui qui fonde en 1635 l'Académie française, dont le rôle sera le suivant. La principale fonction de l'Académie sera de travailler avec tout le soin et toute la diligence possible à donner des règles certaines à notre langue et à la rendre pure, éloquente et capable de traiter les arts et les sciences. À cet effet, il sera composé donc un dictionnaire, une grammaire, une rhétorique et une poétique. Et seront édictées pour l'orthographe des règles qui s'imposeront à tous. La création artistique devient contrainte. La poésie est quelque peu délaissée en tant que telle par les classiques et le siècle fait souvent la part belle aux moralistes qui peuvent choisir d'écrire en vers. Ou alors vous avez évidemment Monsieur Isaac de Benserade, voire et Monsieur Boileau ainsi que La Fontaine et Racine qui en font partie. La morale classique trouvera son apogée sous le règne de Louis XIV. Et particulier dans les années 1660 et 1680, souvent considérés comme les plus propices aux arts littéraires classiques. Alors le classicisme va donner cette poésie un peu plus spéciale, comme celle par exemple, comme je vous le disais, de Maître Charnier, qui est un brave poète, ainsi que François Villon, ainsi que Christine Pisan, qui est un peu plus tôt, mais qui est rénovée par André Chénier. Alors, sur la mort d'un enfant, 1762-1794. L'innocente victime. Au terrestre séjour n'a vu que le printemps qui lui donna le jour. Rien n'est resté de lui qu'un nom, un vain nuage, un souvenir, un songe, une invisible image. Adieu, fragile enfant échappé de nos bras. Adieu dans la maison d'où l'on ne revient pas. Nous te verrons plus quand de moissons couvertes la campagne d'été rend la ville déserte. Dans l'enclos paternel, nous ne te verrons plus. De tes pieds, de tes mains, de tes flancs demi-nus, pressés l'herbe et les fleurs dont les nymphes de Seine couronnent tous les ans les coteaux de Lucienne. L'axe de l'humble char à tes jeux destinés, par de fidèles mains avec toi promenés, ne sillonnera plus les prés et le rivage. Tes regards, ton murmure obscur, doux langage, n'inquiéteront plus nos soins officieux. Nous ne recevrons plus, avec tes cris joyeux, les efforts et puissants, impuissants de ta bouche vermeille. À bégayer les sons offerts à ton oreille, adieu dans la demeure où nous nous suivrons tous, où ta mère déjà tourne ses yeux jaloux. Je trouve ce poème malheureusement triste, mais si bien tourné, si bien tourné. Et nous avons évidemment quelqu'un de très connu, Monsieur Paul Scarron. On ne peut pas l'éviter. D'abord secrétaire de l'évêque de Mahon, Scarron, devenu paralysé, se tourne vers l'écriture en 1643. Son œuvre est caractérisée par son esprit burlesque et parodique. Il est époux de Françoise d'Aubigné, qui sera plus célèbre sous le nom de Madame de Maintenon, future compagne de Louis XIV. Nous allons faire une petite pause musicale avec Damanzo Amononza. Thank you. Gananzo Amonosa, jolie petite musique médiévale. Alors nous parlions de Monsieur Scarron, qui fut l'ancien compagnon et mari, époux de Madame de Maintenon. Alors, je vais vous lire. Vous faites voir des os quand vous riez, Hélène, dont les uns sont entiers et ne sont guère blancs, les autres des fragments noirs comme de l'ébène, et tous, entiers ou non, cariés et tremblants. Il avait de l'humour. Comme dans les gencives, ils ne tiennent qu'à peine, et que vous éclatez à vous rompre les flancs, non seulement la toux, mais votre seule haleine peut les mettre à vos pieds déchaussés et sanglants. Ne vous mêlez donc plus du métier de rieuse, fréquentez les convois et devenez pleureuse. D'un si fidèle avis, faites votre profit. Mais vous riez encore, vous branlez la tête, riez toute votre soûl, riez, vilaine bête. Pourvu que vous creviez de rire, il me suffit. Il avait de l'humour, ce Scarron. Ensuite, nous avons quelqu'un, évidemment, que nous ne pouvons pas passer non plus à côté, surtout quand il fait partie des Carpe Diem et qui fait partie de ces grands poètes, poésie du temps qui passe. Le motif du Carpe Diem trouve sa source poétique chez Horace, poète latin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Locution latine, Carpe Diem, quam minimum crudela postero, se traduit généralement en français par « cueille le jour présent sans te soucier du lendemain ». Ce motif du temps fugace dont il faut profiter est récurrent sous la plume du poète qui s'adresse généralement à la femme aimée qu'ils enjoignent de profiter, dans leurs bras, des heures éphémères. Nous avons donc M. Pierre Ronsard. Ronsard est l'un des fondateurs avec Dubélé du groupe de la Pléiade. Il fut également poète de cour, d'où il tire son surnom, le prince des poètes et poète des princes. Sa renommée est considérable, en partie grâce à cette ode inspirée du poète latin Ozone, composée en 1545. Après sa rencontre, Ronsard a alors 20 ans avec Cassandre Salviati, fille d'un banquier italien. Mignonne, allons voir si la rose. À Cassandre. Mignonne, allons voir si la rose, qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil, a point perdu cette vêprée. Les plis de sa robe pourprée et son teint au vôtre pareil. Las, voyez comme en peu d'espace, mignonne, elle a dessus la place. Las, las, ses beautés laissées choir. Oh, vraiment marâtre nature, puis qu'une telle fleur ne dure qu'au du matin jusqu'au soir. Donc, si vous me croyez mignonne, tandis que votre âge fleuronne, en sa plus verte nouveauté, cueillez, cueillez votre jeunesse, comme à cette fleur la vieillesse fera tenir votre beauté. N'est-ce pas beau? Et puis, nous avons aussi un autre poème, toujours de Ronsard. Comme on voit sur la branche, au mois de mai, la rose et sa belle jeunesse en sa première fleur, rendre le ciel jaloux de sa vive couleur quand l'aube de ses pleurs au point du jour la rose. La grâce dans sa feuille et l'amour se repose, embaumant les jardins et les arbres d'odeur, mais battue ou de pluie ou d'excessive ardeur, languissante elle meurt feuille à feuille déclose. Ainsi, en ta première et jeune nouveauté, quand la terre et le ciel honoraient ta beauté, la parque t'a tuée et cendre tu reposes. Pour obsèque reçois mes larmes et mes pleurs, ce vase plein de lait, ce panier plein de fleurs, afin que vif et mort ton corps ne soit que rose. Très beau, n'est-ce pas? Très très beau. Nous avons aussi donc ce monsieur Chénier, qui était vraiment quelqu'un de bien, qui poursuit évidemment cette galante poésie de l'époque, mais nous avons évidemment, et je terminerai par lui, parce que c'est la première poésie que j'ai appris de lui. J'étais en CM2 et mon maître d'école s'appelait Monsieur Durand, le vrai cliché. Mais c'est le poème et le premier poème que j'ai appris de lui. C'est Monsieur, évidemment, Jean de La Fontaine, le laboureur et ses enfants. Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver. Vous en viendrez à bout, remuez votre champ dès qu'on aura fait l'oute. Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père mort, les fils vous retournent le champ de ça, de là, partout, si bien qu'au bout de l'an, ils en rapporta davantage. D'argent, point de cachet, mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. Voilà, sur ces belles paroles, je vais vous quitter. Et nous allons nous quitter avec la Nova Estampida. Voilà, sur cette musique, je vous dis et je vous souhaite un bel été festif. Je trouve que c'est inspirant, la musique médiévale qui est festive. Alors, je vous retrouverai à la rentrée et je vous souhaite dans nos belles Cévennes de faire la fête. C'est un pays qui nous invite à la fête. Alors, bel été à vous tous, escapadiens, escapadiennes, et à la rentrée.